L'objectif de ce document est d'aider à mieux intégrer dans la mission de l'Église et la communion des Églises locales les dons du Saint-Esprit qui s'expriment dans, par exemple, la vie consacrée, dans les mouvements, dans les associations et dans les charismes peut-être un peu plus individuels. Alors, c'est une réflexion en profondeur dans la continuité du Concile œcuménique Vatican II et qui est adressée aux évêques, hein, afin de les aider à accueillir ces réalités, à les discerner, à discerner leur authenticité et aussi à les accompagner de façon à ce que la mission de l'Église se développe dans l'unité.
Vous insistez beaucoup sur cette unité, mais cette unité, elle peut être menacée justement. Pourquoi choisir aujourd'hui de publier ce document?
Parce qu'il y a eu une réflexion, je dirais, depuis l'an 2000, comme a été souligné, et le Saint-Père provient de la dimension charismatique de l'Église et il a choisi le nom de François. Alors, il a voulu lui-même donner au charisme dans l'Église une reconnaissance et il a voulu que l'Église vive une conversion missionnaire. Alors, ce sont surtout les charismes qui, je dirais, stimulent cette conversion missionnaire de l'Église. Je crois que le document vient vraiment à son heure, hein, d'une façon qui ne juge personne, mais qui est un approfondissement théologique et qui est une élaboration de critères que les évêques peuvent utiliser pour le discernement de ces réalités charismatiques et pour leur intégration.
En quoi ces réalités, ces dons charismatiques et ces dons hiérarchiques sont-ils complémentaires?
Tout d'abord, ils se construisent ou ils sont donnés sur le fondement du baptême et de la confirmation. Et le fondement, si vous voulez, le don hiérarchique est dans la continuité de la mission du Christ, hein, qui est la tête du corps, qui est l'Église. Les dons charismatiques sont davantage du côté de la réponse de l'Église dans l'Esprit-Saint au don du Christ. Et donc, il y a une complémentarité et il y a un rôle de discernement de l'évêque par rapport à ces réalités charismatiques. On affirme leur co-essentialité, mais en même temps, on ne dit pas qu'ils ont la même fonction. Ils ont des fonctions différentes, mais les deux, dans l'harmonie, font la beauté et la jeunesse de l'Église.
Justement, le mot de rajeunissement a été beaucoup évoqué. C'est un texte qui met l'accent sur ce rajeunissement. En quoi c'est important, justement, que cette Église soit rajeunie, en quelque sorte?
Eh bien, quand la mission est relancée, quand le contact avec les pauvres se refait ou se développe, eh bien, on voit fleurir des générosités. De jeunes, les vocations renaissent et donc l'Église rajeunit. Je crois que c'est ça une des bonnes nouvelles des charismes dans l'Église.
Est-ce que ce document est aussi une manière d'envoyer un message à certaines communautés ou certains groupes charismatiques qui, justement, pourraient s'éloigner du magistère de l'Église?
Le pape François, dans Evangelii Gaudium, a répondu à cette question. Quand on lui a posé la question des mouvements, des nouvelles communautés, il les a invités à s'intégrer davantage dans la communion des églises diocésaines et concrètement avec les paroisses, avec les réalités qui existent sur le terrain, afin que les charismes qui ont peut-être une portée plus large, mais soient aussi intégrés dans, disons, l'accomplissement de la mission de l'Église localement.
C'est aussi renforcer le pouvoir des épiscopats, une idée très chère justement au pape François.
Tout à fait. Il a beaucoup insisté sur la synodalité depuis le début. N'est-ce pas toute cette réflexion qui a été portée en avant avec un peu de fatigue, un peu de recherche et un peu de recherche pas toujours facile et non sans tension, mais il a réussi à nous mettre dans une dynamique de discernement et où le temps a son rôle et où on ne peut pas arriver tout de suite à toute la clarté sur les solutions à trouver, mais si on est en chemin, nous sommes avec le Saint-Esprit. Et nous nous laissons conduire vers le royaume.